Midi 50 minutes. Luc, as-tu jeté un œil au livre Vito Rizzuto, La chute du dernier parrain?
Oui.
C'est
oui,
Daniel Renault qui le signe avec la collaboration d'un ancien policier qui a suivi quasi à la trace Vito Rizzuto pendant plusieurs années, Laurie McDougall. Bonjour, Monsieur Renault.
Oui, bonjour.
Pourquoi un livre sur Vito Rizzuto? Pourquoi rendre hommage à un salaud, dans le fond?
Ben, rendre hommage, je pense pas que je rende hommage. Je pense que je rapporte des faits oui. qui m'ont été, dans la plupart des cas, racontés par les policiers. Par contre, c'est parce que en décembre prochain, le 23 décembre, ça fera 5 ans que le parrain de la mafia est décédé de mort naturelle, rappelons-le. Et en 5 ans, des langues se sont déliées. Des policiers qui ont rencontré Vito Rizzuto ces dernières années sont plus près de parler. Et aussi, ça me permettait de faire le point sur l'état de situation de la mafia italienne 5 ans après le décès du parrain.
Mais Daniel, moi, j'ai suivi beaucoup l'histoire des Rizzuto et de la mafia avec des livres comme Mafia Inc. et un livre en anglais aussi de Sixth Family que tu as dû lire.
Oui.
Ça demeure que, bon, c'est un bandit qui a ordonné des assassinats, qui a participé lui-même à en faire, mais ça reste un gars fascinant, n'est-ce pas?
Oui, c'est un gars fascinant. Les policiers eux-mêmes sont fascinés par le personnage, mais c'est aussi, puis c'est ça que je disais hier à Tout le monde en parle, parce que c'est aussi un individu qui, pour le milieu criminel, était très important et très respecté, parce qu'il agissait de façon à ce que tous les groupes criminels puissent avoir leur part du gâteau.
C'est un espèce de stabilisateur dans le milieu.
Oui, ben dans le fond, c'était un arbitre, là, puis un conseiller. D'ailleurs, c'était sorti un peu durant la commission Charbonneau que Vito Rizzuto était un arbitre, là, pas seulement un bon joueur de golf, mais oui, exactement ça. Et lorsqu'il a été arrêté, les sources de plusieurs policiers ont dit « Vous faites une erreur, vous devriez pas l'arrêter ». Mais là, évidemment, il faut que la police fasse son travail. Et Vito Rizzuto, c'est un criminel. Si on a de la preuve, il faut qu'on l'arrête. Mais à partir du moment où il a été arrêté, c'est là que la mafia sicilienne de Montréal a commencé à s'écrouler. Et c'est là que les guerres intestines ont commencé.
Mais dis-moi, l'as-tu rencontré jamais, Vito Rizzuto?
Non, jamais. Non,
moi,
j'ai
oui,
jamais
hein.
rencontré
moi, je l'ai
Vito
vu deux
Rizzuto.
Fois.
Toi, tu l'as vu deux fois?
Je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une fois dans un restaurant du centre-ville de Montréal. Moi, j'y avais pas parlé, mais il était venu rencontrer quelqu'un, puis il y avait ses gardes du corps que tu voyais à la porte des taupins. Puis il y a eu une conversation avec quelqu'un pendant une dizaine de minutes, puis il est parti. Donc ça, c'est peu de choses. Mais à un autre moment donné, j'étais dans un restaurant italien bien connu, qui d'ailleurs était lié au Rizzuto. Comment ça s'appelait? Non, la Cantina.
Oui, sur le boulevard Saint-Laurent.
Voilà. Et à un moment donné, je me dirigeais vers la chambre de bain et il y avait une pièce en arrière de la cantina où ils avaient installé des équipements là, qui faisaient qu'on pouvait pas enregistrer, enfin toutes sortes de trucs comme ça. Et quand je me dirigeais vers la chambre de bain, je me suis retrouvé nez à nez avec Vito Rizzuto qui sortait de cette pièce-là. Et il m'avait reconnu, c'était un gars qui parlait un espèce de français de la rue, là, en plus de parler plutôt l'anglais.
Oui, avec une grosse voix.
Ouais, puis il m'avait dit, je te connais, toi, je t'ai vu à TV. Et j'avais dit, moi aussi, je vous connais, je vous ai vu dans les journaux.
ça, c'est en quelle année, ça, vous souvenez-vous, là?
Ah, moi, je dirais que ça devait être au début des années 2000, fin des années 90.
C'est ça. Ben là, il était à son summum.
À
parce
son
que
top,
il s'est fait arrêter le 20 janvier 2004. Mais effectivement, puis je suis certain que la première fois que vous l'avez vu, lorsqu'il a quitté le restaurant, il est sorti sans payer.
Absolument.
Ah oui?
Oui. Il payait jamais.
Il payait jamais.
Non, et c'est comme ça d'ailleurs encore aujourd'hui pour certaines personnes de son entourage.
Ah oui, ça continue.
Mais en bout de ligne, oui. Là, Daniel, qui était ce gars-là? Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial? Pourquoi en a-t-il mené si large? On a même dit à un moment donné qu'il a amené aussi large que les grandes familles de New York.
Oui, ben peut-être même plus. En fait, pourquoi? Ben, c'est un peu pour les arguments qu'on a évoqués tout à l'heure. Il jouait le rôle d'arbitre entre les différents groupes criminels et il maintenait un équilibre. Et c'est la raison pour laquelle il était solide comme chef de la mafia. Mais à la fin des années 90, début 2000, puis c'est ça que je raconte dans le premier chapitre du livre, il y a une autre organisation criminelle qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Ce sont les Hells Angels.
Oui.
Et ce que les policiers disent, ce qu'ils pensent, c'est que Vito Rizzuto sentait que éventuellement la mafia allait perdre la place au détriment des Hells Angels, et il a dû probablement fléchir sur certains points et leur laisser un peu de place pour éviter qu'il y ait un conflit, parce que il croyait que s'il y avait eu un conflit à cette époque-là, peut-être que la mafia aurait perdu. Fait que finalement, un proverbe qui dit que, bon, si je me souviens plus exactement les mots, mais si tu peux pas rallie-toi, et c'est ce qu'il a fait. Mais ce qu'on apprend dans le livre, c'est que on décrit un peu plus le côté humain de Vito Rizzuto. Mmh. Quand je dis côté humain, je me répète là, je suis pas en train de dire que c'était quelqu'un d'humain, et je parle encore du c'est qu'on voit Vito Rizzuto un peu dans son quotidien. On l'entend parler, on le voit parler, on en sait un peu sur ses relations avec les membres de sa famille. Ce sont des aspects du personnage qui n'étaient pas palpables nécessairement dans les deux livres que vous avez nommés, le Mafia Inc. Mm-hmm. et La Sixième Famille. Mais le livre commence au moment où Vito Rizzuto est à son paroxysme. Mais là, il y a les premiers nuages noirs qui arrivent à l'horizon. Les débuts de l'enquête Colisée, et Laurie McDougall est un policier de la GRC qui a été un des témoins privilégiés de la filature de Vito Rizzuto jusqu'au Mexique, jusqu'en République dominicaine, même lorsqu'il a fui en 2003 à Cuba pendant deux mois parce qu'il avait peur d'être extradé aux États-Unis. Il y a aussi, évidemment, la justice américaine qui court après. Et là, les difficultés commencent. Et il y a toutes sortes d'anecdotes dans ce livre-là, jusqu'à son arrestation, son emprisonnement aux États-Unis. Et c'est là que sa famille, ses proches, sa garde rapprochée commencent à être exterminés.
Son fils est assassiné, son père est assassiné.
Son beau-frère.
Oui,
et
ce qui est intéressant, oui, et même des amis, des proches, son beau-frère, Paulo Renda, qui est enlevé, jamais revu. Ce qui est intéressant, c'est qu'à quatre reprises, des policiers montréalais et de la GRC vont le voir à Florence, au Colorado, dans sa cellule. La première fois, en décembre ou à l'été 2010, si je me souviens bien, c'est parce que j'ai pas le livre sous les yeux, mais Vito Rizzuto ne sait pas du tout d'où proviennent les attaques. Il cherche, il questionne les policiers. La deuxième fois, après le meurtre de son père, Nicolo, dans sa cuisine, le 10 novembre 2010, les policiers retournent le voir. Il est désemparé, il est abattu. Il se demande pourquoi on a tué son père à 86 ans, qui, selon lui, ne faisait plus que jouer aux cartes. Mais lorsque les policiers de la GRC retournent le voir en 2011 et 2012, en 2011, il commence à savoir qui il lui en veut. Il commence à identifier des gens. Et avant sa libération en 2012, il sait très bien ce qui se passe. Il ne questionne plus du tout les policiers pour savoir ce qui se passe. Et les policiers repartent de leur rencontre en se disant, c'est sûr, il va se venger.
OK. Donc, il avait repris le contrôle avant même de sortir de prison.
Oui, oui. En 2012, il y a une série de meurtres et de tentatives de meurtres qui sont effectuées avant même qu'il sorte le 5 octobre 2012. Et c'est clair que c'est pour préparer le retour de Vito Rizzuto. Autant son clan était complètement désemparé. À un moment donné, ils ont trouvé quelqu'un pour faire le travail. Et c'est ce qui se passe. La situation est retournée. Et en 2013, début 2013, il est redevenu le parrain de Montréal, mais ça ne dure pas longtemps parce qu'il décède de façon naturelle en décembre 2013.
Par exemple, Joe DiMaolo, c'était lui, c'était Rizzuto qui l'a fait décéder.
Oui. Oui, c'est sûr qu'on ne le saura jamais. Lui, en fait, Giuseppe DiMaolo était le beau-frère de Rénal Desjardins. La théorie de la police, c'est que en 2009-2010, c'est une alliance de clans de la mafia, des anciens fidèles de Rizzuto et aussi des gens proches de Rénal Desjardins, qui étaient aussi des anciens fidèles de Vito Rizzuto. Donc, ils se sont mis ensemble pour faire un putsch contre le clan des Siciliens. Mais à un moment donné, la chicane a pris dans tout ce monde-là. Desjardins a été victime d'une tentative de meurtre en septembre 2011. Il pensait que c'était Montagna. Le groupe de Desjardins a fait assassiner Montagna, mais finalement, c'était les Rizzuto qui ont essayé de tuer Rinald Desjardins. À ce moment-là, les deux clans l'ignoraient, Desjardins et Montagna, mais les Rizzuto étaient de retour et reprenaient peu à peu le contrôle.
Mais moi, il y a une question qui m'a toujours fasciné dans ça. Parce qu'évidemment, je considère que les trois composantes du film The Godfather, Le Parrain, sont probablement un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Un peu comme Michael Corleone, Vito Rizzuto aurait pu, avec son intelligence, son charisme, tout ça, être un homme d'affaires tout à fait légal et avoir sans doute une grande réussite. Pourquoi il continue dans ça?
Ben c'est ça, Luc, qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai écrit aussi le livre précédent, Cellule 8002, les policiers me disaient que Vito Rizzuto, lorsqu'il l'écoutait, parce qu'ils l'ont écouté pendant 4 ans jusqu'à son arrestation, et même ils ont continué à l'écouter au-delà de son arrestation, parce que même à Rivière, dans la prison de Rivière-des-Prairies, sa ligne était tapée, même à New York et même au pénitencier de Florence, ce gars-là, au téléphone, passait son temps à faire des transactions, tellement qu'un policier de la GRC, Michel Fortin, à qui j'avais parlé, m'avait dit on était en train d'y bâtir une défense, parce que tout ce qu'il disait au téléphone, il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Il était en train, dans le fond, de se légitimer. Il était rendu à ce niveau-là, Vito Rizzuto, lorsqu'il a été arrêté.
Un peu comme dans le film.
Oui, exactement. Mais finalement, il a été arrêté pendant son emprisonnement aux États-Unis. Son clan a été étrié et pour revenir, il a dû d'abord préparer son retour, reprendre sa place, venger ses proches, dont son fils Niccolo Junior. Et c'est ça qui l'a accaparé. Mais probablement qu'éventuellement, si Vito Rizzuto n'était pas décédé, lui ou ses descendants en seraient venus à un niveau de légitimité.
Aujourd'hui, là, le clan Rizzuto, il existe à toute fin pratique plus. Est-ce qu'il y a une relève ou est-ce que tout le champ est donné aux Hells Angels?
Non, c'est ça. Le clan des Siciliens existe encore. La façon dont ça fonctionne, Myriam, aujourd'hui, actuellement, là, je vous donne la photo là, du 12 novembre 2018. La mafia italienne à Montréal n'a plus une structure pyramidale. Elle a une structure linéaire. C'est qu'il y a plusieurs clans de la mafia et chaque patron de ces clans-là est un peu comme un gérant, mais elles sont toutes sur le même niveau. Cependant, il y en a toujours une qui est un peu plus influente que les autres. C'est l'ancienne cellule de Vito Rizzuto, qu'on peut appeler la cellule sicilienne. Mais ces gens-là qui ont pris la relève, à tous les policiers à qui on parle, vont nous dire que c'est les gens qui n'ont pas l'étoffe de Vito Rizzuto. C'est une cellule qui, peu à peu, est en train de perdre de l'influence. Donc, éventuellement, ou bien la mafia italienne va continuer à être atteinte par des guerres intestines et va être peu à peu réduite à un groupe organisé quelconque, un peu comme le gang de l'Ouest. Je suis pas en train de vous dire que le gang de l'Ouest est quelconque, c'est encore un groupe important, mais on en entend presque plus parler, donc plus rarement, donc un groupe criminel qui pourrait retourner dans l'ombre, ou bien à un moment donné, il y a un autre individu de la mafia qui va se dresser comme étant un chef.
C'est ça
et
qu'ils
qui
ont
va rassembler
ont...
tout ça et ramener une certaine grandeur, mais les valeurs sont plus les mêmes qu'à la belle époque aussi de Vito Rizzuto.
Écoutez, ça va être un livre fascinant.
C'est très bien. Et puis c'est écrit de façon très journalistique. Là, on suit le chemin. C'est quand même écrit au présent, donc on est tenu en haleine. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser que Pourquoi ils continuent à jouer les bandits? Pourquoi, à un moment donné, quand ils ont assez d'argent, ils ne se retirent pas tranquillement?
Ça, c'est une bonne question, mais il y en a qui le font. Il y a des individus qui, autrefois, étaient associés à la mafia, qui sont maintenant tout à fait légitimes.
Il y a même des noms célèbres qu'on n'ose pas prononcer parce qu'on sait
non,
qu'on
non,
va se faire
on n'ose pas prononcer. Effectivement.
On sait qu'on va
mais,
se faire poursuivre.
En principe, d'ailleurs, c'est le but. C'est ça le but, c'est d'avoir assez d'argent à un moment donné pour être complètement lavé, complètement blanchi, ouais, et pouvoir reprendre une place honorable dans la société. Cela dit, c'est de l'argent facile. Quand on fait des grosses importations de cocaïne, qu'on réussit notre coup, qu'on vend ça dans la rue, ces gens-là ont souvent le goût du luxe. C'est plus l'ancienne génération de mafiosi, là. Maintenant, les jeunes se promènent en grosse voiture, ils ont à peine 30 ans, tout ça, c'est sûr.
Ils sont écolos, ils sont en Tesla maintenant.
Oui, ben ça, c'est oui, probablement qu'il y en a, effectivement. Mais il va toujours en avoir, d'autant plus, Myriam et Luc, qu'actuellement, je peux pas dire qu'on est dans les grosses années de vaches grasses là, de budget policier actuellement. Là. Okay. En plus, la poursuite, la police a subi quelques revers importants devant les tribunaux en matière de crimes organisés ces dernières années, je dirais peut-être depuis les deux dernières années, depuis Shark aussi, finalement, oui, la fin des procédures de Shark en 2015. Donc, le moral est un peu dans les talons. En plus, l'argent est pas là. Il y a d'autres priorités, la lutte au terrorisme et tout ça. Donc, actuellement, le crime organisé a le beau jeu. Sauf que moi, je trouve que...
Ils ont pas de chef, c'est ça. Ils ont pas de chef.
Il doit sûrement avoir des gens d'influence parce qu'il n'y a pas plus de meurtres qu'il faut actuellement. C'est même relativement calme.
En fait, quand ça va mal, il y a des meurtres. Quand ça va bien, il n'y a pas de meurtre. C'est ça?
C'est ça. Parce qu'actuellement, c'est très calme. Mais est-ce que c'est le calme avant la tempête? Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs majeurs du crime organisé actuellement en liberté. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des conflits qui pourraient éclater? Je pense que oui, mais je peux me tromper. Je veux pas être prophète de malheur non plus, parce que quand il y a des meurtres comme ça qui sont commis, il peut toujours aussi avoir d'innocentes victimes là, ouais, qui peuvent décéder dans des attentats. Mais j'ai l'impression, puis plusieurs policiers me disent aussi que c'est le calme avant la tempête.
Merci beaucoup, Daniel Renaud.
Daniel, t'as déjà un livre de vendu. Je m'en vais acheter le mien en sortant du studio.
Ben merci beaucoup, merci. C'est très apprécié. Ça va me faire plaisir à vous le signer. Là.
OK, salut Daniel.
Merci Daniel Renaud.
OK, merci, au revoir.
Daniel Renaud, qui est journaliste et qui écrit ce livre, Vito Rizzuto, la chute du dernier parrain. Ce sont les dernières années, dans le fond, de Vito Rizzuto. Moi, ça, c'est drôle, hein, cette fascination qu'on a pour le monde interlope.
Ben ça tient beaucoup au film Le Parrain. Parce que ouais, le film Le Parrain, à plusieurs égards, est un chef-d'œuvre. Cinématographie, photographie, les acteurs qui jouent, tout ça. Et évidemment, le scénario sur lequel ça repose, parce que ce que tu vois, là, Michael Corleone, là, qui ouais, est joué par Al Pacino, c'était Vito Rizzuto, c'était ça. Là. C'était ça qui était en train de devenir. Là. C'était ouais, un homme d'affaires incroyable, Vito Rizzuto, mais qui faisait des affaires croches. Point. C'est ça qui est fascinant dans cette culture-là. Pourquoi? Parce que tout le monde va s'entendre, ceux qui l'ont connu, tout ça, pour te dire que c'était un gars immensément brillant, OK? Qui était sans doute, quand tu le voyais en personne, pour l'avoir vu deux fois en personne, c'était probablement le gars le plus élégant au Québec. Il portait des vêtements, il avait l'air d'un prince. Et oui, il se dégageait de lui une sorte de charisme. Tu avais l'impression que tu étais devant quelqu'un de très important.
Dans le livre, à un moment donné, il engueule, je pense que c'est son fils, qui a refusé de vendre un condo aux 1000 de la commune.
Ouais, ouais.
Le condo était à vendre à 778 000. Il a refusé une offre à 750 000. Et son père l'engueule en disant, voyons donc, cette affaire-là, tu perdais 28 000, mais tu prenais cet argent-là, tu le mettais sur la rue, tu faisais 100 000 en deux temps, trois mouvements. Le mettre sur la rue, j'imagine ce que c'est. Là.
Mais tu sais que ces gens-là, de par leur culture, parce que bon, Rizzuto, ça descendait d'une famille venue de Catolica et Eratlea en Sicile, où qui était vraiment une bourgade de la mafia équivalente à Corleone dans l'histoire du Godfather. Donc, c'est une culture. C'est assez fascinant, puis en même temps, immensément méprisable, parce que la Sicile a vécu, qui est un des paradis sur Terre, n'a jamais pu évoluer parce que cette bande de connards, de mafiosos, ont paralysé la place en entier.
Il est 13h10. Il manque juste Dalida qui chante par le plus bas.